France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Rangers, enquête en pleine réserve naturelle, paysage de Namibie, braconnage, espèces sauvages, espèces humaines, tout le monde piège tout le monde dans le roman qui nous occupe aujourd'hui. Mais personne ne protège jamais assez les animaux. Karyl Ferré, grande signature du roman, est l'invité de votre book club, plus d'une vingtaine de romans à son actif, des scénarios pour le cinéma, pour la BD, de livres jeunesse, des récits, des adaptations radio même. Le spectre de son rapport au texte est large, mais il vient nous parler de son dernier roman, Oka Van Gogh, paru en cette rentrée dans la série noire de Gallimard. Vers 15h50 le lundi, nous avons rendez-vous avec Emmanuel Laurentin qui relie pour nous un fait d'actualité avec un ou plusieurs imaginaires littéraires. L'assassinat du professeur de lettres Dominique Bernard le 13 octobre dernier, à qui nous pensons forcément en ouvrant une nouvelle semaine d'émissions consacrée au livre, fait choisir deux textes à Emmanuel, lui permettant d'évoquer l'école. Et puis nous nous quitterons en chanson grâce à vos trouvailles de lecture qui nourrissent le grand jeu des pages musicale. Ouvrons les livres, nous sommes ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club et bienvenue à vous, Karyl Ferré.
Bonjour.
Bonjour. Oka Van Gogh, je le disais, est paru dans la série noire chez Gallimard, on va en parler tout à l'heure, mais ici tout commence par un questionnaire de lecture pour d'abord dresser le portrait de nos invités en tant qu'ils sont d'abord des lectrices et des lecteurs. Est-ce que vous vous souvenez avoir appris à lire ?
Je me souviens surtout en fait de mon arrière-grand-mère qui me disait des histoires quand j'étais tout petit. En fait, c'est presque mes premiers souvenirs vers l'âge, je sais pas, peut-être 3 ou 4 ans. Et pour moi, donc la lecture, enfin, ou raconter des histoires, ça a toujours été très naturel. Donc spécifiquement à l'école, si je m'en souviens un peu, mais c'est surtout les histoires qui m'ont bercé.
Et ça passait par sa voix. Du coup, c'était des moments où vous étiez tous les deux. Elle vous lisait quoi comme histoire ?
Non, c'était rigolo parce que ma famille, ils étaient tous instituteurs et elle était institutrice. Elle est née en 1891 ou un truc comme ça en fait. Donc à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'institutrices.
Non, c'est vrai.
Et comme mes grands-parents y étaient aussi, mon arrière-grand-mère était à la retraite. Et du coup, il y avait des livres de classe, j'y allais pendant les vacances en fait. Et on allait dans les salles de classe, on était tout seul parce que c'est les vacances. Et il y avait un livre, Le rêve et la vie, je m'en souviens.
Où Rêve et la vie ?
Ouais, c'était un livre de classe en fait, mais qui était certainement pour les CM1 ou CM2. Mais il y avait des histoires de loups, de renards, de Kessel, tout ça. Et avec des gravures, enfin des dessins qui étaient absolument magnifiques. Et cette vieille grand-mère a passé des heures et des heures, la pauvre, des heures et des heures. Hein, à lire l'histoire parce que quand elle est finie, il fallait recommencer.
Ouais, on connaît les enfants qui demandent à recommencer.
Ouais, c'est ça. Et ça m'a complètement percé. Pour moi, c'est le début de tout.
Est-ce que vous aviez une curiosité pour le fait de pouvoir déchiffrer seul un texte ou vous étiez plutôt très heureux de vous laisser faire par la voix de quelqu'un qui vous raconte des histoires ?
Comme les dessins étaient absolument magnifiques, et il y avait des animaux souvent, donc ça me faisait trop rêver, quoi. Je me souviens, la panthère noire, le renard et tout. Il y avait les moutons de Panurge, il y avait plein. C'était des extraits, en fait, quoi. Mais je voyais bien que les lignes noires, c'était quelque chose d'intéressant, mais sa voix me suffisait. Enfin, dans la petite enfance, sa voix me suffisait. Mais après, bon, quand j'ai commencé à lire, après, c'était autre chose.
Et alors, comment c'était quand vous avez commencé à lire ?
J'ai l'impression d'avoir toujours lu, en fait. Vraiment. Mais à l'époque, comme il n'y avait pas trop de livres en jeunesse, enfin, il y avait un peu Club des Cinq et tout, les bibliothèques roses, voire vertes, quoi. Mais je sais pas, je trouvais ça un peu cucu. Enfin, je préférais directement Jack London. Alors peut-être que c'était des versions qui étaient raccourcies, mais j'étais déjà dans les grands récits d'aventure.
Et quand est-ce que vous avez découvert Jack London ?
Je sais plus, je devais peut-être 8-10 ans, quelque chose comme ça.
Ah oui,
l'appel de la forêt.
C'est quand même très jeune.
Ah oui, parce que moi j'étais vraiment gamin, quoi. Vraiment très petit.
Et ça aussi, vous les trouviez dans les salles de classe abandonnées de l'été ou c'était plutôt
J'ai l'impression d'avoir toujours été un peu entouré de livres. Non, je sais pas, il y en avait chez mes parents, chez mes grands-parents, mes oncles et tantes aussi. Il y avait partout des livres, en fait.
Et vous lisiez beaucoup ?
Oui. Oui, ça j'ai toujours... En fait, j'avais un frère qui était un peu tyrannique, qui voulait absolument faire du sport. Et donc la lecture, pour moi, c'était mon endroit à moi. En fait, le moment où j'étais seul et je sais que tous les soirs, c'était l'éducation de l'époque, hein, mais à 20h30, il fallait absolument qu'on éteigne la lumière. Donc on mangeait, je sais pas, à 7h, à 8h on était au lit, on avait le droit à une demi-heure de lecture. Mais à 8h30, moi j'avais pas du tout envie de dormir. Moi j'aurais lu jusqu'à 11h du soir. Mais les parents, ah non, et puis carrément ils nous espionnaient, on n'avait pas le droit d'allumer la lumière, on n'avait pas le droit de lire. Quand ma mère, elle voit ça aujourd'hui, elle me dit, qu'est-ce qu'on était cons. Je dis, oui. Donc ma fille, évidemment, jamais elle a été astreinte à ne pas avoir le droit de lire. Enfin.
Et si on passe un petit peu du temps, Karyl Ferré, et qu'on arrive, je sais pas, à l'adolescence ou peut-être à l'âge du jeune adulte, qu'est-ce que vous avez entre les mains comme livre ?
L'autre livre qui m'a, enfin, le livre qui m'a vraiment marqué, c'est Le Seigneur des Anneaux, donc de Tolkien, que j'ai dû découvrir à 12 ans ou 13 ans. Et en fait, c'est donc les trois livres, c'est le seul que j'ai, quand j'ai fini les trois, j'ai recommencé. Enfin, j'ai l'impression que pendant un an, je n'ai lu que Le Seigneur des Anneaux.
Qu'est-ce que vous y trouviez? Je dis au passage qu'on va y consacrer toute une émission entière la semaine prochaine.
Mais en fait, je crois que je me trompe, parce qu'en fait, ma fille l'a lu ou d'autres gens m'ont parlé, me disent, mais c'est pas du tout ça. Mais ce que j'avais adoré, bon, c'est la Seconde Guerre mondiale revisitée, hein, les Hobbits, c'est les Anglais, enfin, on retrouve Sauron, c'est Hitler, les Cavaliers Noirs, c'est les Nazis, enfin, les SS, etc. Enfin, donc, j'ai toujours été passionné de la Seconde Guerre mondiale, ça me renvoyait à une autre Seconde Guerre mondiale, mais revisitée, en fait, de manière un peu magique. Mais surtout, ce que j'adorais, c'était le personnage d'Aragorn. Parce que dans mon souvenir, mais évidemment, c'est pas le bon. C'est pas grave, on se refait, de toute façon. Oui, on se refait. De toute façon, c'est l'imagination qui compte. Et pour moi, il avait le choix ou l'amour de Arwen, enfin, d'une elfe, ou sauver les hommes. Alors, c'était complètement tragique, c'est dément, quoi. Enfin, bon, moi, j'aime le tragique, en fait, quoi. Et là, c'était le choix entre l'amour ou sauver les hommes. Bon, il n'y a pas mieux, en fait, c'est impossible.
Oui, ça pourrait presque être une des façons de parler des romans que vous écrivez, car il ferait l'amour, ouais, sauver les hommes, ouais, résoudre l'injustice.
Oui, c'est ça.
C'est ça, quand même.
Je suis resté l'enfant, l'adolescent.
Après, vous avez beaucoup voyagé. Il y a eu quelque chose de très lié entre l'écriture et vos déplacements sur la planète Terre. Car il ferait, est-ce que vous êtes un lecteur voyageur? Est-ce que vous embarquez toujours quelque chose avec vous?
Ah ouais, ça c'est pas possible. Et puis comme j'ai pas, bon, il y avait pas de tablette à l'époque, mais aujourd'hui j'ai toujours pas de tablette, quoi. Enfin, j'ai besoin de l'objet livre, quoi. Parce que souvent, en fait, on se souvient. Enfin, il y a plein de livres, on se souvient où on les a lus.
Moi, je me souviens plus souvent où je les ai lus que ce qu'elle raconte exactement.
Oui, tout à fait. Et il y a des endroits particuliers où on est vraiment bien. Et le livre qu'on lit à cet endroit, c'est vraiment magique, quoi.
Alors, comment vous préparez votre valise de livres quand vous partez?
Bah, bon, je prends des poches parce que.
Parce que le sac est lourd.
Oui, voilà, le sac est lourd. Des gros poches et il faut que je sache que ça va me plaire. C'est-à-dire que je prends pas trop quand je pars assez longtemps, enfin, ou même 15 jours. Je prends pas des livres, oh, est-ce que c'est bien, je sais pas trop. Il faut que je sois sûr, parce que sur place, souvent, j'en trouverai pas. Et ça, je sais que ça me manquerait. Donc souvent, je triche un peu.
Alors comment vous savez, car il ferait qu'un livre va absolument vous plaire?
Bah, si c'est un auteur que j'aime, je suis quasi sûr que ça va me plaire, en fait, quoi. Alors, après, il y a aussi, là, je parle de roman surtout, mais il y a des sujets, par exemple, si je prends un bouquin d'éthologie, je sais que ça va me plaire et que je vais lire du début jusqu'à la fin, parce que le sujet me passionne. Donc là, je prends aucun risque.
Et vers quels auteurs vous ne prenez aucun risque quand vous le mettez dans votre valise, par exemple?
Bah, Tim Willox, par exemple, en polar, quoi. Bon, je sais qu'il est complètement fêlé, donc il va se passer à la fois l'ultra-violence et l'ultra-humanité. Donc là, je sais que c'est bien, mais après, si je prends la Pléiade de n'importe quel poète, je sais que de toute façon, ça va forcément me plaire. Donc je suis assez confiant.
Vous lisez beaucoup de poésie?
Ouais, pas mal, ouais. Ben, je trouve que c'est quand même le pendant à la violence du monde, donc il faut faire l'équilibre, en fait. Hein.
Est-ce que vous avez une table de chevet?
J'ai une table de chevet avec plein de livres.
Hein. Il y a des livres dessus?
Il y a plein de livres dessus, en fait, mais la table de chevet, donc c'est près du lit. Qui dit près du lit dit plutôt le soir, ouais. En fait. Et le soir, quand je fais pas trop la bringue...
Dodo?
Bah, une demi-heure et même pas 20 minutes et ça m'endort, quoi. Moi, je lis plutôt le matin, en fait. Donc, j'ai plutôt des livres du matin qui sont sur ma table, mais pas ma table de chevet, ma table de petit déjeuner, on va dire, avec le chat, là. Et on lit tous les deux pendant une heure. Enfin, lui, il lit pas très bien, mais il est là.
Et il accepte que vous lisiez pendant une
il
heure.
Il adore, parce que comme ça, il est sur moi, il a des caresses. Et puis, des fois, il mord le livre, mais certains papiers, il aime certains papiers.
Est-ce que vous cherchez quelque chose de particulier dans les livres, Karel Ferrer? Que vous lisez?
Bah, la moitié des livres que je lis, quand même, ils sont en rapport avec le roman que j'écris. Donc, du coup, je suis en train de travailler. Enfin, souvent, je prends toujours des notes sur le livre, parce que c'est des livres qui vont me servir de documentation pour mon roman, quoi. Alors, j'essaie quand même de faire pas que ça, parce qu'autrement, je me limite forcément à des sujets particuliers. Et comme je lis de tout, y compris de la BD, bon, j'essaie de m'évader aussi un peu de mes livres, quoi.
Est-ce qu'il y a des livres ou un livre avec lequel vous avez l'impression d'avoir rendez-vous?
Pas tellement, non, parce que j'ai, à part Le Seigneur des Anneaux et un livre de John Fante, j'ai jamais rien relu, sauf la poésie. En fait, René Char, je peux ouvrir n'importe quelle page, je sais que là j'ai rendez-vous avec le summum pour moi de ce qui peut se faire en littérature.
Oui, d'ailleurs, à la fin, j'étais très intriguée, au point que je me suis demandé si ça appartenait à un autre de vos anciens livres ou à un poème à vous. Mais donc, dans ce petit paragraphe sur lequel on va revenir, qui est un paragraphe de notes, un peu, pas un paragraphe de remerciement, mais il y a ces deux vers, enfin, que j'ai identifiés comme des vers, « La même main caresse et tue, le souvenir du couteau ». Je me suis demandé si c'était un de vos poèmes, si c'était le poème de quelqu'un d'autre, et puis j'ai pas trouvé.
Oui, c'est un des poèmes, on va dire, quoi. En fait, c'est dans Mapuche, un livre que j'ai écrit qui se passe en Argentine, et le père du héros est un peu poète, en fait, qui s'est fait torturer et tuer. Enfin bon. Et du coup, je cite je fais des poèmes en disant que c'est celui du poète argentin, le fameux qui n'existe pas, en fait, qui est mort. Et cette phrase, en fait, elle résume à la fois bien le livre et ce que je pense de l'humain. Et en fait, je l'ai écrit en un été où je lisais l'intégrale de René Char, et je trouve que dans sa poésie, il y a aussi de la philosophie, et surtout un truc à la fois hyper puissant, hyper noir et hyper lumineux. Et donc c'est inspiré de René Char, on va dire.
Donc c'est aussi une façon de raconter que vos livres se répondent les uns avec les autres, et il me semble que c'est pas le seul thème qui serait commun comme ça. Voilà, la question du chasseur, de l'arme, mais de la violence se retrouve dans votre bibliographie. On va aller vers ce nouveau livre, Caril Ferret, Okavango. Après ce disque, il faut pas se fier à la douceur de la voix de Nicole Dolenganger. Elle chante Porch's Pride. I shot an angel.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Peut-être la clé la plus ancienne, la plus profonde du roman qui nous occupe aujourd'hui tient-elle en une petite phrase, glissée dans le paragraphe à la fin du livre et qui dit « Je voulais être tueur de braconniers quand j'étais petit, je le veux toujours, écrire est un remède ». Dans votre dernier roman, Caril Ferret, une réserve naturelle, Wild Bunch, au beau milieu de la Namibie, est le décor d'une enquête confiée aux Rangers qui cherchent à comprendre ce qui est arrivé à un jeune koi dont la dépouille vient d'être retrouvée. Je dis décor, mais votre façon d'écrire le vivant, végétaux et animaux, les relations, la façon d'écrire la prédation, la protection, les trafics, la violence, vous place, nous place, Caril Ferret, au cœur de ce vivant. Okavango, c'est le nom d'un fleuve. Au tout début, on est accueilli par une carte, c'est-à-dire comme la question du territoire est importante dans ce texte-là. Vous allez l'arpenter tant du point de vue géographique que du point de vue historique. Si on devait, pour nos auditrices et pour nos auditeurs, placer des premières images, on dirait quoi, Caril Ferret ? On est dans quel genre de paysage ?
Le désert, souvent. Enfin, le Kalahari, la Namibie, c'est vraiment un désert constitué de plein de déserts différents. Enfin, moi, c'est l'endroit qui me rend paisible.
Oui, souvent, on vous dit ça de tous les déserts, d'ailleurs.
Ouais. En fait, je sais pas, je me sens étrangement bien dans ce vide, en fait, qui pour moi est plein. Plein de choses. Et le Kavango, enfin, c'est ce qui fait la différence entre le désert et les autres pays. Donc, c'est une frontière, la frontière avec l'Angola, où il y a une guerre civile. Une guerre absurde, en fait, au milieu de la savane. Et c'est le Kavango, c'est le seul fleuve au monde qui se jette dans la terre et non dans la mer. Et en se jetant dans la terre, il crée le fameux delta de l'Okavango, où à la saison sèche, tous les animaux convergent pour trouver de l'eau, évidemment. Et donc, c'est la foire d'empoigne là-bas, puisque tout le monde est réuni sur un tout petit territoire. Et malheureusement aussi les braconniers, puisque c'est un garde-manger pour tout le monde. Et là, du coup, ça devient plus végétal, en fait.
Avec un paradoxe qui est que ce fleuve-là, c'est à la fois ce qui permet aux animaux de s'abreuvoir, de trouver de l'eau, d'avoir accès aussi à une végétation un peu plus luxuriante, mais qui peut devenir poison et vous montrer combien est-ce que par l'eau, on peut aussi deviner une sorte d'activité criminelle et destructrice des humains. Ce livre-là est nourri comme les autres de beaucoup de savoirs sur le territoire, je le disais, tant du point de vue géographique, presque politique, historique, scientifique aussi sur les sols, sur les espèces. Comment s'est passé, pendant combien de temps et avec quel livre la documentation autour de ce roman-là, Caryl Ferret ?
En fait, ce qui est particulier sur ce sujet, en fait, parce que j'y réfléchis que maintenant, en fait, sur le coup, j'ai pas trop fait attention, mais il y a plein de livres d'éthologie qui existent, et des récits de voyages, etc., autour des animaux. Mais par contre, en littérature, à part Le Lion de Kessel et Les Racines du Ciel de Romain Gary, il n'y a rien. En fait, alors Colin Niel a fait un écrivain de polar a fait un bouquin en Namibie parce qu'on avait le même fixeur, mais plutôt autour de la chasse. Mais par contre, sur les animaux, le roman c'est pas du tout accaparé ce sujet. Et en fait, je pense que le Kavango a créé un vide. Enfin, il y avait un vide où je suis rentré dedans, mais c'était facile parce que j'ai l'impression que c'était un territoire vierge, en fait, vraiment. Parce que même dans La Racine du Ciel, Romain Gary il parle, c'est les éléphants. C'est tout. On n'apprend rien sur leur vie, enfin, sur leur façon d'être et leur individualité, puisque chaque éléphant est différent. Ils sont comme les humains. Il y en a des débiles, il y en a des sympas. Mais on n'apprend rien, en fait. On découvre l'écologie avec Romain Gary. Mais en 50 ans, en gros, il s'est quasiment pas écrit de...
Vous voulez dire autour de cette zone spécifique? Parce que, évidemment, qu'il y a des romans qui s'emparent des animaux sauvages et tout ça, ça existe. Mais vraiment autour de l'Okavango.
Ouais, mais souvent, j'ai l'impression que ces animaux, ils sont... dans Le Lion de Kessel, par exemple, c'est plutôt la relation entre la petite fille et l'animal. C'est le vieux rêve des humains de pouvoir parler avec des animaux ou en tout cas être proche d'eux comme des amis, chose qu'on peut retrouver avec nos animaux domestiques. Mais ils sont pas tellement... Enfin, moi, j'ai pas rencontré littérature où ils étaient vraiment mis en scène comme personnages à part entière.
Et vous, ça faisait partie de votre envie ?
Assez, oui, parce qu'en fait, on dit souvent la nature, les animaux, en fait, mais on s'exclut d'eux, en fait, quoi. Et en tant qu'être humain, bon, on considère que nous sommes des animaux aussi, alors... Et eux, ils ont leur conscience, qui est différente de la nôtre, mais ils ont leur propre conscience, et j'avais envie qu'on soit à égalité, en fait. Qu'on ait la même sensation qu'on ressent quand on est en Afrique, dans des territoires hors réserve, où on dort au milieu des lions, par exemple. Là, on sent vraiment égalité avec eux. Et je pense que, enfin, j'espère en tout cas que dans le livre, on retrouve ça, quoi. Que les animaux et humains sont à égalité, pas sur leur façon d'être, parce qu'on est différents.
Non, mais puis il y a des phénomènes de domination et de prédation qui font que l'égalité est un peu chahutée.
Mais comme entre les hommes et les femmes, et comme entre les hommes et les hommes, c'est la même prédation, et c'est les mêmes mots. Et le capitalisme exacerbé rentre complètement dans ses failles et en profite. Et là, on arrive à la cupidité, à la révolte, en fait. Enfin, moi, je trouve ça révoltant, le sort.
Vous notez d'ailleurs à la fin du livre que vous avez lu, entre autres livres, des livres de Baptiste Morisot qui parlent de justement la question du vivant et n'excluant pas l'homme et faisant partie d'un vivant. Il n'y aurait pas d'un côté la nature et de l'autre les humains. Mais pour en venir à la question de la préparation de la documentation, souvent vous parlez de la grande aventure de recherche qui précède l'écriture de vos romans, Caryl Ferret. Il s'est passé quoi pour ce roman-là ?
Après, on peut toujours connaître la théorie. Donc, bon, moi, j'ai lu plein de choses autour des conflits qui avaient eu lieu dans la région, de quel type de population vivait en Namibie, notamment les Khoi et les San, qui sont un peu nos ancêtres, hein, parce qu'ils sont comme les aborigènes, ils ne sont pas, quasiment pas bougés depuis 30 ou 40 000 ans. Donc quand on va sur place, c'est toujours, enfin moi je trouve ça vraiment passionnant de voir comment on vivait, entre guillemets, il y a 30 000 ans, parce qu'eux, ils sont restés en totale connexion avec le biotope. Mais ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est le terrain, en fait, quoi. Et c'est là où parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, enfin, pour moi, c'est 90% du travail, enfin, des découvertes, en tout cas, elles sont faites sur place.
Parce que même y compris l'histoire, parce qu'avec le personnage de John Latham, qui est propriétaire de cette grande réserve naturelle, et par la manière dont on découvre, via des archives et via l'enquête, son passé à lui, il y a toute une histoire du territoire. Là, j'imagine que c'est quand même dans les lectures qui ont précédé l'écriture, où c'est vraiment en rencontrant les gens sur le terrain.
Non, ça c'est vraiment son background, en fait. Mais comment parler d'un conflit qui a eu lieu 20 ans, 30 ans ou 50 ans plus tôt? Il faut toujours trouver des astuces. Alors en Argentine, c'est les grands-mères à la place de mai qui me permettaient. Donc je trouve toujours des gens. Et là, il fallait quelqu'un qui ait l'âge. Il fallait qu'il ait 30 ans de plus que par rapport au conflit. Donc ça délimitait lui.
Son âge, son personnage.
Son âge, et puis comme je n'allais pas tout révéler d'un coup, parce qu'évidemment, je me sers aussi des conflits pour créer des traumatismes, parce qu'ils sont liés au conflit, évidemment. Donc c'était vraiment un puzzle. Mais le plus. Moi, ce qui m'a le plus. Parce que ça, c'est un peu. C'est presque des maths. Tu vois. Une fois qu'on a toute notre documentation, il faut qu'on la mette à droite et à gauche sans saouler le lecteur à travers un roman. Mais le plus. Ce que je préfère, moi, c'est les découvertes que je fais sur place. Et il y a une des premières scènes où une jeune américaine touriste parle à John et qui lui dit ce soir, on mange de la girafe. Et là, quoi, la girafe, c'est pas possible, jamais je mange un animal sauvage. Et en fait, j'étais avec ma fille dans une réserve, et puis c'est une scène qu'on a vécue, et quand on t'explique pourquoi, en fait, il vaut mieux manger de la girafe que du bœuf ou des légumes qui viennent de 2000 km, avec tout un ensemble de choses qui fait que on se rend compte que vraiment tout est lié. Le moindre acacia est lié à une girafe ou plusieurs girafes.
Et ça, vous faites rentrer ça directement dans l'espace du roman. C'est-à-dire que, au même titre que vous organisez de manière quasi mathématique la connaissance que vous avez amassée sur un sujet, eh ben, le temps que vous passez sur place, c'est aussi le lieu de, comme ça, croquer des scènes, prendre des notes et donner de la chair, en fait, à tout ça.
Ah oui, puis en plus, on côtoie plein de personnages sur place, qui soient rangers, pisteurs ou les gens qui bossent contre le braconnage et des éleveurs. Tous ces gens, en fait, du coup, deviennent des personnages du roman, puisqu'ils sont in situ, ce qu'ils te racontent est tellement bouleversé. Plein de clichés, en fait, qu'on peut avoir en tant qu'occidentaux, même si on a vu un milliard de documentaires animaliers, qu'on arrive sur place, on se rend compte souvent que les documentaires, ils sont mis en scène. Et que c'est pas quand on voit une mangouste et un cobra, souvent on a amené le cobra devant la mangouste pour faire une scène. Et on n'a pas attendu pendant 3 mois qu'ils se rencontrent, en fait. Donc on triche un peu. Tandis que là, on est en plein dans le wild, quoi.
Et vous prenez des notes, vous prenez des photographies. Comment est-ce que vous procédez?
Pas trop. Non, mais en fait, j'ai pété mon téléphone portable en bivouacant contre une corne d'oryx. Donc j'avais plus de photos, mais c'est pas grave en fait. Les quelques notes que je prends, c'est juste sur des noms de plantes particulières ou d'animaux que je connais pas. Mais en général, c'est plutôt, je suis vraiment en empathie totale, une éponge totale. Et en fait, quand je rentre chez moi et que j'écris, tout ressort comme si j'y étais en fait. Donc ouais, je suis en direct.
Le Book Club, c'est toute une communauté d'auditeurs, d'auditrices, de lecteurs et de lectrices qui communiquent avec nous, notamment via la communauté Instagram du Book Club. On va écouter la voix d'Anthony, qui est un fidèle lecteur, je crois, et qui a lu Okavanga.
Bonjour le Book Club et bonjour Caril Ferret. Alors moi, j'ai lu Okavango, comme la plupart de vos livres d'ailleurs. Et je suis heureux parce que j'ai retrouvé tout d'abord votre plume magnifique. Et ensuite, encore une fois, vous m'avez fait voyager. J'ai eu l'impression d'être vraiment dans l'ambiance du lieu où se situe l'aventure. J'étais en Afrique, j'étais avec les personnages. Et surtout, ce qui est incroyable dans celui-ci de livre, c'est que vous avez réussi à créer une certaine empathie avec les animaux sauvages. D'où ma question. Jusque-là, vous êtes intéressé beaucoup à l'être humain et aux injustices humaines. Qu'est-ce qui a fait que cette fois, vous êtes intéressé aux animaux?
un vieux Bauhaus passait sur la platine, commandé, comme les vinyles, sur Internet. John avait doublé les doses de whisky depuis la mort d'Aya. Il s'en autorisait deux d'ordinaire, hors d'âge de préférence, venu par caisse d'Afrique du Sud, son seul caprice. De quoi le pousser dans son lit après une journée à courir la brousse, sans qu'il ne sombre dans l'alcoolisme post-colonial. Il en était à son quatrième, et le crépuscule avait fondu depuis longtemps. John fixait le mur de la bibliothèque, comme si un oiseau s'y était posé et risquait, au moindre geste, de s'envoler, et ne savait plus que penser. Se faisait-il des idées sur cette femme ? Solana voulait-elle juste leur coller le meurtre du coï sur le dos ? Un ranger allait venir mettre son nez dans leur système de surveillance. Le jeune Seth, sans doute, puisqu'il faisait équipe. Il faudrait l'avoir à l'œil. Le disque s'acheva dans un long silence, sans lui donner de réponse. On entendait les chants monter depuis le kraal. On avait saupoudré d'herbe les quartiers de viande de gnous, dont les effluves, emportées par le vent du soir, montaient jusqu'au lodge.
Caryl Ferré, on vient d'entendre un extrait d'Okavango, votre roman paru dans la série noire chez Gallimard en cette rentrée littéraire. Et juste avant, une question de notre auditeur Anthony qui vous interroge sur le choix de traiter les animaux cette fois-ci plutôt que les humains. Est-ce que le choix s'est présenté comme ça ? Est-ce que vous vous êtes dit « j'ai exploré suffisamment l'espèce humaine et la violence des humains entre eux pour m'intéresser aux animaux cette fois-ci » ?
Malheureusement, l'espèce humaine, sa violence, elle est intarissable. Donc, on le voit en ce moment. Donc, ça, c'est pas trop le sujet. Enfin, il sera toujours là, ce sujet. Mais comme vous disiez tout à l'heure, voilà, je rêvais d'être tueur de braconniers quand j'étais petit.
C'est pas commun. On pourrait quand même revenir sur cette phrase-là, non ?
Mais c'est les premiers chocs quand t'es enfant. Enfin, moi, j'avais 6 ans. Je vois un documentaire animalier où le dernier guépard d'Asie était tué par un braconnier. Inconsolable, absolument inconsolable. Et le lendemain matin, j'ai dit à mes parents, après avoir pleuré toute la nuit. Quand je serai grand, je serai tueur de braconniers. Et ça, j'ai pas bougé là-dessus, en fait, quoi. Pas du tout, en fait.
Que vous étiez plutôt dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de tigres et pas beaucoup de rhinocéros ni d'éléphants.
Non, mais il y avait Daktari à la télé, vous êtes trop jeune, mais nous, on voyait ça. Et tous les enfants, ils aiment les animaux, en fait. Et cet amour, on le perd avec le temps, parce qu'on devient adulte, il faut gagner de l'argent, tes parents disent qu'il faut faire des études. Tu vas à Assas ou je sais pas quoi. Bon, il n'est plus question d'empathie avec les animaux, en fait, quoi. Mais si on reste sur ce terrain-là, on reste à la fois enfant, mais avec aussi cette colère, quoi. Cette rage. Et j'ai toujours rêvé d'aller voir les animaux sur place, mais pas faire des safaris avec des caravanes de type autour de moi, quoi. J'étais un peu sauvage.
Et qu'est-ce que ça change alors pour poursuivre de répondre à la question d'Anthony, de s'approcher aussi près et parler d'une empathie avec les animaux? Il y a un extrait de votre livre où vous dites les animaux comme remède, l'idée d'une connexion comme ça. John s'était connecté à eux plus qu'aux hommes. Est-ce que ça a modifié votre façon de concevoir ce roman, d'en chercher une saveur particulière, une construction particulière, Caryl Ferré?
Je pense que ça a changé ma conception de la mort, en fait. Alors, c'est un peu bizarre, mais en fait, quelle empreinte laisser sur Terre, c'est ce qui m'a le plus changé, en fait, dans l'écriture de ce livre, c'est de voir comment vivent les animaux sur place, comment les préservent, etc. Et je dis, t'as un peu de fric, qu'est-ce que t'en fais? T'achètes une maison? Bof. Enfin, je sais pas, ça fait pas rêver, quoi. Par contre, t'achètes une réserve. L'empreinte que tu laisses sur Terre, si tu peux permettre à des animaux de vivre, ben je pense que c'est une bonne façon de d'écrire des livres, c'est une chose, mais la vraie empreinte sur Terre, c'est ce que tu laisses aux autres, en fait.
Alors justement, parlons de celui qui a acheté une réserve et qui s'en occupe, John Latham. Comment est-ce que vous le présenteriez à nos auditrices et nos auditeurs ? Quel genre de type c'est ?
Ben, lui et Solana, ce sont les deux héros du bouquin, et ils ont tous deux une conception de la défense des animaux différente, en fait, sans trop spoiler. Donc elle est plus dans la justice, le droit, parce qu'au Botswana c'est comme ça que ça se passe, le pays qui est à côté, elle est botswanaise. Donc elle, voilà, ce qui l'intéresse, c'est la justice, le droit, la loi. Lui, il s'en arrange, on va dire. Ils sont tous les deux sur le fond, ils sont d'accord, sur la forme, pas du tout.
Oui, on peut dire ça, et on peut dire que lui, pareil, sans dire grand-chose, mais il peut avoir partie liée, on va le découvrir, avec tout un mécanisme de trafic à l'échelle géographique plus ou moins grande, car il ferait. Pareil, je voudrais qu'on dévoile pas trop l'intrigue, mais quand même, ça fait partie des choses que nous apprennent le livre. Voilà, vous décrivez des trafics qui génèrent des millions de dollars, qui sont une manne financière extraordinaire. Comment est-ce que vous avez eu connaissance de ça, et comment est-ce que vous le faites entrer dans le roman?
Comme le sujet c'était le braconnage, quand on commence à avoir la documentation autour de ça, on devient fou, en fait, de rage, je veux dire. Parce que c'est sans fin, en fait. Et puis un animal, bon, il y a une bourse phonique, donc les animaux sont cotés à la bourse, enfin une bourse à Hong Kong, qui est une bourse de stupidité épouvantable, en fait, quoi. Et plus un animal est rare, plus il est cher, mais c'est le capitalisme, c'est la rareté qui fait le. Si les diamants, il y en avait partout, ils vaudraient rien. Et plus un animal est rare, plus il est chassé, plus il est rare, etc., etc. Donc la logique veut que chaque animal coté, en tout cas, finisse par disparaître, puisqu'il devient de plus en plus cher, donc de plus en plus braconné. Donc c'est et tout ça pour des raisons souvent qui sont vraiment du domaine du virilisme le plus bête. Enfin, c'est presque un pléonasme ce que je dis là. Mais
voilà, oui, c'est... d'autant plus que souvent on donne comme ça des espèces de, en tout cas dans votre roman, de propriété à certaines kératines, à certaines cornes, comme étant une façon pour les hommes d'être plus viril que le plus viril d'entre eux. Enfin, il y a vraiment quelque chose aussi de la bêtise, de la violence, mais des hommes au sens masculin du terme que vous décrivez.
C'est vraiment la domination. C'est vraiment la domination la plus bête qui soit. Enfin, bon. Je ne supporte pas la domination en général, mais là, c'est toujours, ça concerne que les hommes, quand même, Parce que de la pharmacopée chinoise, effectivement, c'est la corne de rhinocéros, ou testicule de tigre, ou griffe de lion. C'est toujours des trucs virils, C'est jamais du jus de mouche, C'est pas ça qui va, et c'est toujours pour être contre l'impuissance, ou, rallonger le sexe, ou faire des performances. Enfin, c'est la corne de rhinocéros, donc c'est de la kératine, donc c'est de l'ongle. Donc c'est dit souvent, enfin, messieurs, rangez-vous les ongles.
Ça fera pareil.
Il va pas se passer, ou pas grand chose, il va pas se passer grand chose en tout cas, quoi. Mais c'est des croyances, les gens ont envie de croire en quelque chose, y compris en n'importe quoi. Mais c'est assez révoltant parce que, enfin, c'est, bon, tout ce trafic est révoltant et les raisons de ce trafic sont révoltantes. Mais des fois, c'est juste parce que un abab a envie d'avoir une peau lion dans son yacht. Enfin, là, on touche quand même le fond, quoi. Enfin, pour moi, on touche le fond.
Comment est-ce que vous avez décidé que l'enquêtrice serait une enquêtrice, justement, que ce serait une femme?
Comme souvent les gens qui tiennent les réserves en Namibie, en Afrique du Sud aussi, ce sont des blancs, souvent des hommes parce que voilà, il y a un côté très physique, etc. Et puis ils sont un peu âgés. Donc alors le mâle blanc de 50 ans, déjà c'est un peu un handicap comme personnage. Et je voulais qu'il y ait une femme parce qu'il faut qu'il y ait une histoire d'amour, même si peu importe si ça
pourquoi
marche.
Pourquoi il faut toujours qu'il y ait une histoire d'amour?
Autrement, je m'ennuie. Mais je m'ennuie autrement, moi. C'est...
Même avec des enquêtes, même avec des morts, même avec des cadavres, même avec
des
dossiers postcoloniaux infernaux et des archives terribles.
Non, mais ça, c'est de l'histoire, c'est le background, en fait, du roman. Et ça me passionne parce que tout ça me passionne. Mais par contre, dans le pur roman,
Intéresse, c'est l'histoire d'amour.
Oui, parce que le cadavre, c'est juste un prétexte pour pouvoir parler. Ce cadavre vient me servir. C'est qui ce cadavre? C'est guidé de quelle ethnie? Où il est? De quel mouvement social? Ou je ne sais quoi. Mais par contre, si c'est une histoire d'amour, ça c'est mieux. Parce que ça parle à tout le monde. Moi, ça me parle en particulier. Et sur notre lit de mort, c'est tout ce qu'on va se souvenir de ça. On va pas se dire, dans ma vie, j'ai gagné 375 000 euros. Non, j'en suis sûr que non. Enfin, à part d'être complètement abruti. Par contre, on va savoir qui on a aimé, que ce soit nos enfants, nos amis, parce que quand je dis amour, c'est aussi amitié, et les femmes qu'on a aimées ou les hommes qu'on a aimés, c'est tout ce qui nous reste, en fait. C'est tout ce qui nous restera.
Est-ce que vous ne vous verriez pas un jour écrire uniquement une histoire d'amour, Karel Ferret? Sans meurtre, sans enquête, sans réserve naturelle?
Mais en fait, moi, j'ai commencé à écrire adolescent, c'était des histoires d'amour qui finissaient mal, parce que c'est la seule chose que je connaissais à l'adolescence. Et maintenant, j'ai mis un petit peu plus de trucs autour, mais c'est quand même toujours des histoires d'amour qui finissent plus ou moins mal.
Plus ou moins mal.
Oui, parce qu'il y a deux, en plus, dans Okavango, il y a deux histoires d'amour. Parce que j'ai dit, tiens, quitte
à... Et il y a même un duel en bonne et due forme à la fin, c'est presque chevaleresque.
Oui. Mais j'en dirai pas plus.
Ah d'accord, pardon.
En tout cas, je peux dire quand même, sans rien spoiler, que les 100 dernières pages, les braconniers, comme il y a quand même 400 pages où on voit leur trafic et ce qu'ils sont assez révoltants, les 100 dernières pages... Ils s'en prennent quand même plein la gueule.
Vous aviez tout à l'heure cité le nom de Joseph Kessel dans ces fameux livres d'école que vous lisez votre grand-mère ou arrière-grand-mère ?
Arrière-grand-mère.
Arrière-grand-mère, carrément. On va écouter sa voix dans une archive de 1959.
J'ai ce sentiment, en racontant des histoires que des centaines de milliers, que des millions d'autres gens ne pourront pas connaître, j'ai ce besoin de partager avec eux mes étonnements ou mes craintes ou mes émerveillements. Mais la vraie vérité, c'est que je pense qu'un écrivain a besoin d'écrire comme un cultivateur a besoin de remuer la terre. Dans le lion, il y a le fond qui est vrai, c'est-à-dire la réserve où vivent les animaux sauvages. Le reste s'est composé avec des personnages que j'ai rencontrés là-bas et aussi avec beaucoup d'imagination. Les scènes entre la petite fille et le lion, je les ai inventées. L'histoire du Maasai, la rivalité amoureuse entre le lion et le Maasai, naturellement, c'est pure fiction de ma part. Le tout, à mon avis, c'est que l'imagination serve à faire croire les choses comme si elles avaient existé.
C'est une archive du 16 décembre 1959, c'est la voix de l'écrivain, journaliste, baroudeur Joseph Kessel que vous citiez tout à l'heure et Caril Ferret. Je peux dire qu'il y a aussi une grande traversée qu'on peut réécouter sur France Culture et qui est signée Romain Debecq de Lièvre et Julie Bérécy. Est-ce que c'est une figure au-delà de cette lecture de toute prime enfance avec votre arrière-grand-mère qui vous intéresse, qui vous inspire cette figure-là ?
Mais Kessel, j'ai surtout lu sa biographie vers l'âge de 20-25 ans, quand j'ai commencé à voyager, etc. Et bon, il a 50 vies dans la même, il est toujours au bon endroit, il va en vacances, c'est la guerre d'Espagne, 36, enfin, etc. Donc ça, c'est ce côté...
Être au bon endroit au bon moment.
Ouais, mais c'est la curiosité, quoi. C'est comme la chance, en fait, c'est des choses qui se... Enfin, il faut, c'est l'être en fait quoi qui compte, c'est faire les choses quoi, comme Brel. Donc ça, c'est un peu mes modèles quoi. Après, c'est aussi bon le rapport aux femmes, on va dire, c'est déjà son côté héroïque, amitié virile, et le rapport aux femmes est un peu daté, on va dire.
On entendait aussi dans cette archive l'idée que le besoin d'écrire puisse correspondre aux besoins de l'agriculteur de retourner la terre. Est-ce que, et vous savez, vous, aujourd'hui, après tant de romans, tant de textes, tant de scénarii, à quoi correspond ce besoin d'écrire et est-ce qu'il est aussi fort, est-ce qu'il est presque naturel, finalement, pour reprendre la métaphore de Kessel, que celui qui a besoin de retourner la terre ?
Ouais, je pense que c'est une bonne image, mais... moi j'ai commencé à écrire adolescent, ayant été viré du public et du privé, j'ai fini ma scolarité par correspondance avec le CNED là, et ce qui m'essayait toutes mes journées libres en fait quoi, et parce que je faisais mes cours très rapidement.
C'est ce que j'allais dire, ça vous laissait toutes les journées libres, ça veut dire que vous deviez pas beaucoup étudier avec
non,
le CNED.
Non, pas beaucoup. Non, c'était une petite heure le matin en me réveillant et tout l'après-midi, tous les après-midi en fait j'écrivais.
Vous écriviez.
Mais en fait, avec la même passion, quoi. Bon, après, à 20 ans, j'ai décidé d'être écrivain, mais j'avais pas de plan B. C'était ça ou rien, quoi. Je réfléchis pas trop à ça, mais je sais que j'écrivais avec la même ferveur, même sans être publié, même faisant complètement ça, ouais, dans le vide, enfin, toujours avec l'espoir, mais ce qui compte, c'est l'envie, en fait. Il y a que ça qui compte, en fait, quoi. Donc là, je suis toujours le même, quoi. Il y a pas de...
Plutôt l'envie d'écrire que le besoin d'écrire, pour reprendre les mots de Kessel.
Ouais, moi, c'est l'envie qui motive tout. Besoin, il y a un côté qui serait un peu, je sais pas, il y a un peu de pathos dans le besoin, quoi. Dans le vide, c'est beaucoup plus gai, quand même, quoi. Et même si les sujets que j'aborde sont absolument pas gais.
Les heures d'écriture sont plaisantes?
Ah, mais c'est ma journée idéale, c'est une fois que j'ai lu et que j'ai fait quelques corvées de communication, et voilà. De 11h à... De toute façon, ma journée, c'est toujours la même. Hein. C'est 7 jours sur 7, toute l'année, c'est 11h, 19h, avec 20 minutes de pause pour le Journal de France Culture, que j'écoute peut-être, c'est ma pause du midi, 20 minutes, pas plus,
okay, bah,
en mangeant.
Enfin, on fait un petit big-up à Thomas Cluzel et au Journal de midi 30.
C'est Jean-Philippe Midi, enfin bon, oui, ça fait partie, c'est mon quotidien. Mais c'est comme des... Comme Nadal avant de servir, il a toujours les mêmes tics et tout, tac, tac, mais en fait, ça te permet de te concentrer, en fait, toute cette routine, en fait. Alors, je suis plus du tout routine dans ma vie par ailleurs, mais cette routine d'écriture, elle est, je l'adore, en fait, quoi. Et quand j'écris pas, c'est pas que je fais la gueule, mais je me prépare psychologiquement à pas écrire. Là, je suis en promo, là, je vous vois. C'est super, parce que vous êtes super, hein, c'est heureusement.
Mais vous êtes bien préparé toute la matinée en vous disant, je vais pas passer mon après-midi à écrire.
Non, bah, j'ai écrit ce matin quand même, enfin, jusqu'à prendre le taxi pour arriver ici, mais je sais que je vais reprendre en revenant. Mais souvent, quand on est en promo, je sais que je peux pas écrire de roman parce que c'est trop prenant, donc j'écris d'autres trucs. Mais du coup, je prévois des mois à l'avance, qu'est-ce que je vais faire pour ne pas écrire mon roman. En fait, il faut quand même que je fasse d'autres types d'écriture à côté. Mais tout ça est très organisé.
Oui, j'ai l'impression. Oui. On entendait dans l'archive de Joseph Kessel l'idée qu'il y avait évidemment beaucoup de documentation, qu'il y avait quelque chose qui était très lié au terrain, donc on l'entend bien aussi dans votre façon d'écrire, car il ferait, mais qu'il y avait beaucoup de place à l'imagination, qu'il y avait beaucoup de choses qu'il avait imaginées. Il parlait là de son roman Le Lion. Qu'est-ce qui, chez vous, voilà, on a parlé de la place des histoires d'amour, on a parlé de la manière dont, depuis le terrain, s'inventaient des personnages qui arrivaient dans le roman. Quelle place vous laissez à l'invention totale, car il ferait.
Alors pour ce qui concerne les humains, il y a tout ce qui est un peu enquête, tout ça, tout, parce que moi, en plus dans le polar, moi je sais juste la différence entre un pistolet et un revolver, donc ça montre le niveau quand même de il y en a qui connaissent ça par cœur avec des procédures, moi rien du tout, en fait ça m'intéresse pas trop. Mais par contre sur toutes les scènes, il y a quand même beaucoup de scènes avec les animaux, y compris entre eux en fait, et ça c'est des choses que j'ai pu lire, voir de documentaires ou qu'on m'a raconté. Mais évidemment qu'il y a plein de scènes que j'ai pas du tout vécues, parce que il faudrait que je reste des mois et des mois en planque pour assister à certains types de scènes, quoi. Mais par contre, ce qui compte, c'est que ce soit vraisemblable, en fait. Et c'est ça le roman, en fait, quoi. C'est pas, on n'est pas en train de faire une thèse, il faut que ce soit vraisemblable, il faut qu'on y croit, quoi.
Il y a toute une mécanique, hein. Vous avez l'air de décrire comme ça des processus d'écriture assez organisés. Tout à l'heure, vous parliez d'une organisation quasi mathématique de votre documentation. Mais il y a aussi la façon de faire avancer votre roman. C'est des romans qui sont assez conséquents. Ici, on est 450 pages, avec une fluidité dans la narration. À la fois, ça va vite, il y a des rebondissements, il y a des enquêtes. Enfin, il y a vraiment l'idée d'une construction. Concrètement, dans le lieu où vous écrivez, ça passe par quoi? Vous avez des fichiers, vous avez des notes, vous avez des post-it, comment ça marche?
Non, j'ai des plans que je respecte pas, parce qu'en fait, le fait de voyager, d'aller sur place, ça bouleverse tout. Puis quand on trouve une sous-intrigue, par exemple la deuxième histoire d'amour, ça fait
exploser le reste un peu.
Oui, ça fait un kaléidoscope, en fait, c'est-à-dire que tu bouges ça, en fait, ça fait bouger tout le reste. Donc en fait, c'est sans fin. C'est pour ça que les plans, je finis par ne plus les suivre. Mais par contre, comme je m'endors avec. Je me réveille aussi avec des solutions. Enfin, et donc c'est un work in progress constant. Mais ce qui compte, c'est la surprise, en fait, quoi. Et puis il y a la langue, enfin l'écriture, en tout cas, quoi, qui bouleverse des choses, parce que puis il y a le cinéma qui fait qu'on va pas traîner sur des trucs. Personne ouvre des portes et referme des portes, en fait. Moi, ils sont déjà dans la pièce et ils ont déjà commencé la discussion souvent, en fait. Donc en fait, c'est des scènes qui sont, parce que quand on écrit des histoires assez longues, il faut pas qu'il y ait une ligne de trop.
Vous dites le cinéma, c'est-à-dire votre manière d'écrire comme si vous étiez en train de faire du montage déjà, quoi?
Oui, parce que je vois les images, en fait. Plus en train de les tourner. C'est pas du montage, c'est-à-dire qu'on a tourné plein de trucs, puis après on taille, on choisit.
Non, vous tournez direct à l'os.
Ouais, alors après, je fais beaucoup de prises, hein. Mes premiers jets, ils sont complètement nuls. Enfin, je sais bien, parce qu'en fait, j'écris l'histoire. Mais en fait, c'est un peu comme au cinéma. La première version que je donne à mon éditrice, je dis, bon, c'est du chantier, hein. Comment se passe à me dire, ça, c'est nul et tout. Je sais que c'est nul. Mais voilà, mes personnages, c'est des Playmobil, ils sont un peu débiles. Mais tu vois, on voit à peu près à quoi ils ressemblent.
Pourquoi vous lui donnez à cette étape-là? Pourquoi vous lui confiez?
Parce qu'un éditeur, c'est, ou une éditrice, c'est un copilote, en fait, quoi. Et si on prend une analogie, et bah quand on est au bolide de son roman, on fonce, enfin on va à droite, à gauche, on voyage, machin, et on n'a pas le recul, en fait, quoi. Et le copilote, il dit, attends, attention, et là tu tournes à droite, là tu tournes à gauche parce qu'il y a un virage, là tu vas t'emplafonner dans une fausse bonne idée. Et j'ai la chance d'avoir une éditrice, Stéphanie Delestré, qui travaille le texte. Je dis ça parce qu'en fait, c'est pas le cas, malheureusement, de tous les auteurs. Il y a des auteurs qui travaillent et des éditeurs qui publient leurs livres, mais sans travailler le texte. Alors ça, je trouve ça...
Et elle, c'est comme si elle sentait votre texte, elle voit où ça doit aller, elle vous aide comme ça à copiloter, car il ferait.
Oui, complètement. Ouais, elle me connaît par cœur, elle sait où je veux aller. Et puis, un bon éditeur ou éditrice, il y a des tempéraments différents. Elle sait que moi, je vais parler de tel ou tel truc, des femmes de telle ou telle manière, de l'amour de telle ou telle manière, des morts de telle ou telle manière... des choses complètement différentes avec d'autres auteurs, en fait, qui sont complètement différents et qui cherchent autre chose, donc il faut aussi respecter le tempérament, on va dire, de l'auteur. Mais bon, moi, je suis assez facile à décrypter quand même.
On va entendre une nouvelle question. Elle nous est envoyée par Sonia et elle vous parle de littérature, certes, mais aussi de musique.
Bonjour, le Book Club et Caryl Ferret. Caryl, j'ai lu votre dernier roman, Au Cavango, et vous utilisez la musicalité qui résonne dans le cœur du lecteur. Musicalité des mots, mais également musicalité des notes. La musique tient en effet une belle place dans Au Cavango. On y retrouve des extraits, comme ce vieux Bauhaus passant sur la platine. Quelqu'un poignarde notre nostalgie, quelqu'un tue notre innocence. Dans l'ombre de ton sourire, toutes nos histoires brûlent. Je me sens comme le Bush, une flèche brisée dans une piscine de sang. La musique, omniprésente dans chacun de vos romans et dont le choix colle toujours parfaitement au récit, tient une place particulière dans votre vie, je crois. L'associer à vos romans était-il une nécessité ? Musique et écriture sont-elles forcément liées ?
Consider green lakes and the idiocy of clocks. Someone shot nostalgia in the back. Someone shot our innocence and all our colors.
On entendait la voix de Sonia qui vous adressait une question, Caryl Ferret, relative à la place de la musique. On a un jeu, vous verrez tout à l'heure, qui s'appelle le grand jeu des pages musicales et qui consiste à repérer n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quel livre, les évocations des pages musicales. Dans votre livre, on aurait gagné plein de fois parce qu'en effet, souvent la musique affleure. Moi, je pense aussi, par exemple, à tout un paragraphe où vous évoquez le rock hardcore de je sais plus dans quel pays c'est. Et puis, vous savez qu'il y a aussi une scène hip-hop très précise dans tel pays. Et puis, dans une région juste limitrophe, vous citez deux ou trois noms. Enfin, on sent que c'est assez précis. Sonia vous demandait, est-ce qu'il y avait une façon comme ça de faire se croiser votre rapport à la littérature et à la musique ?
Complètement. Enfin, bon, moi, je suis un musicien frustré. Hein. J'aurais aimé être musicien, mais bon, j'ai bien vu que c'était ou la littérature ou la musique. Donc, j'étais très... J'ai essayé la guitare électrique, mais c'était une catastrophe. Et comme j'écoute la musique tout le temps quand j'écris, mais tout le temps, du coup, ben souvent ce que j'écoute transparaît dans mes livres. Et bon, moi j'écoute du rock parce que j'ai grandi avec le rock, donc c'est toujours fort, c'est toujours assez violent. Mais quand il y a des scènes, là j'ai mis Bauhaus parce qu'en fait c'est un moment de mélancolie un peu qu'il a devant un point d'eau. Et j'adore cette chanson en fait. Et les textes, moi ça m'a toujours fait rêver en fait. Il y a des textes. Tu traduis un peu des trucs, ça me fait partir en fait, et donc du coup ça nourrit vraiment l'imagination quoi. Et quand il y a des scènes d'amour, je parle pas de sexe, hein, je parle de personnes qui se rencontrent, je mets souvent Jeff Buckley parce que bah oui Jeff, c'est que des histoires d'amour tragiques, donc évidemment ça te donne le ton. En fait, quoi.
Ça veut dire aussi que lorsque vous faites tous ces repérages de terrain, vous vous intéressez à la musique, à la scène, par exemple à des musiques qui sont écoutées par les jeunes gens et tout. Il y a aussi cette musique-là qui affleure, parce que c'est spécifique quand même de se poser la question de oui, c'est quoi le punk ou le hip-hop en Namibie en ce moment, quoi.
Ben oui, parce qu'en fait, il faut pas que je fasse trop d'anthropomorphisme ou centrisme. C'est-à-dire que je vais pas mettre mon tempérament à moi dans des sans par exemple quoi, je fais écouter ce que j'écoute, ils vont me regarder et me disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait quoi. Donc du coup il faut bien que je m'intéresse aussi à ce que eux les fait délirer ou ce qui les fait rêver ou ce qui les fait danser simplement en fait quoi, pour essayer de me mettre, de faufiler un petit peu dans la peau de ces gens là
Et notre auditrice et lectrice Sonia évoquait aussi la musicalité de votre langue. Comment est-ce que vous la travaillez, cette musicalité là est-ce que ça a à voir avec la guitare électrique que vous ne jouez pas, Caryl Ferret?
Peut-être, en fait. Mais il y a aussi... moi, je suis très influencé par Brel, en fait, parce que comme lui, j'ai un vocabulaire limité. Mais en fait, c'est l'association des mots, en fait, qui peut faire une belle image. Et Brel est le champion, quand même, de mettre deux mots ensemble. Un costume de bois, ça fait un cercueil, etc., en fait. Et ça, je dis, ah ben ça, par contre, ça, je sais faire. Et, enfin, en tout cas, associer des mots de manière un peu étrange. Et des fois, c'est... on se dit, ah, tiens, elle est bizarre. Enfin, ces deux mots, c'est bizarre associé, mais ça fait une image.
Ça crée quelque chose.
Ça crée quelque chose. Et du coup, enfin, moi, j'aime bien laisser l'imagination au lecteur, en fait, et qui remplisse ses vides, en fait. Et souvent, on me dit, ah, t'as les feux. Mes correcteurs, des fois, me disent, ah oui, tu fais beaucoup d'anacolutes. Mais je sais même pas ce que c'est, en fait. Donc, il y a des formes grammaticales, etc., qui sont pas maîtrisées, mais qui sont faites sur le terrain, en fait.
Et qui sont votre rapport à la langue.
Complètement. Mais comme le rapport au monde, c'est plutôt dans le faire, en fait. C'est ça qui m'intéresse le plus.
Merci beaucoup, Caril Ferret, d'être venu
Merci
nous voir pour évoquer votre dernier livre, Okavango, qui a paru dans la série noire de Gallimard. Restez un petit peu avec nous si vous voulez bien.
France Culture. Le Book Club, Marie Richeux.
15h50 dans le Book Club, on reçoit toujours de la visite et le lundi c'est vous, Emmanuel Laurentin, qui nous rendez visite. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Marie.
Vous avez pour mission sur toute une saison radiophonique de mettre en relation un fait d'actualité avec un ou plusieurs imaginaires littéraires. On peut dire que l'actualité vous sert très tristement. L'assassinat dans son lycée du professeur Dominique Bernard vous a fait ressortir de votre bibliothèque quelques œuvres qui décrivent ou qui rendent hommage aux enseignants, Emmanuel.
Et oui, pourquoi Marie? Parce que nous sommes tous nourris de nos souvenirs personnels d'école, mais aussi des incroyables espoirs que l'enseignement gratuit et obligatoire nous a donné depuis le 19e siècle. Victor Hugo, bien sûr, n'a jamais écrit la phrase « ouvrir une école, c'est fermer une prison », mais il l'a si fortement pensé qu'on lui attribue. Hugo qui a bien écrit, en revanche, « chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne ». 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois et ne savent pas lire et signent d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme où rampe la raison, l'honnêteté périt. Et cette maxime, entrée dans tous les dictionnaires de citation, les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligence humaine. C'est évidemment ce que dit à sa façon aussi Albert Camus quand il écrit Le Premier Homme ou sa fameuse lettre à son maître Jean Germain au lendemain de la réception de son prix Nobel de littérature. « Quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée, dit-il, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi. Et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. » Pourtant, tous les romans ne font pas que tresser des couronnes aux enseignants, loin de là. Pour un Jean Germain, pour Albert Camus, combien de François Merlin, dit Cripur, le professeur de philosophie du lycée de Saint-Brieuc, au cœur du sang noir de Louis Guillou, cible des attaques de ses collègues, mais aussi de ses élèves, à l'exception d'Étienne, que finalement il va finir par décevoir. Cripur, si intelligent qu'il en devient un, je cite, professeur de mépris pour la petite ville décrite comme mesquine, plongé dans la Grande Guerre.
Mais une rangée au-dessus du sang noir, j'ai l'impression que le sang noir, vous en parliez déjà cet été.
Exactement.
Ça faisait partie de vos conseils.
C'est ça, des conseils.
Quand même, ça nous donne deux fois envie de le lire. En tout cas, donc, dans votre bibliothèque, Emmanuel Laurentin, qu'on a de plus en plus envie de visiter, au-dessus de sang noir, vous avez ressorti un court roman qui est paru il y a 11 ans chez Métayer, qui s'appelle Le Glacis. Il a été écrit par Monique Rivet.
Le Glacis se déroule en pleine guerre d'Algérie et on y suit Laure, une jeune professeure au lycée de jeunes filles dans une petite ville de Loranais. Le Glacis, c'est l'avenue qui sépare la ville européenne de la ville indigène, surnommée par les Européens « Village Nègre ». Cette jeune professeure de 25 ans, arrivée par hasard dans ce pays, y reste malgré les risques de la guerre parce qu'elle aime, dit-elle, ses gamines. Laure aime discuter avec un couple de collègues également plus âgés qu'elle et à gauche, les Davous. Elle leur décrit la toute première minute de sa toute première heure de cours, dit-elle. Les gamines se trouvent debout, chacune devant sa table, dans l'attente manifeste d'une initiative de ma part. J'avais dit « asseyez-vous » et j'avais eu la surprise de les voir s'asseoir. Cette expérience concrète de l'efficacité du verbe, dont je n'avais eu jusque-là aucun témoignage personnel, m'avait conquise. Et voilà, disais-je, comment sur un rien, un détail insignifiant, nous prenons nos décisions, en l'occurrence pour moi, de rester dans ce métier où je me suis trouvé un peu par hasard. Oh, un détail insignifiant, reprit Anne-Marie Davout, pas si insignifiant que ça, la découverte de l'autorité, en somme. Les points de vue d'Anne-Marie et les miens divergeaient parfois, écrit Monet Crivet. Elle disait, je les considère quelquefois, ces gamines, ces adolescentes, et je vois les femmes qu'elles seront, qu'elles vont devenir bientôt. Pour moi, ce n'était pas notre affaire. Elles seraient ce qu'elles voudraient, ce qu'elles pourraient, ce qu'on les laisserait être. Notre métier n'est pas de former des adultes. Évidemment, je faisais ce que je pouvais pour qu'elles apprennent à écrire, le français, à raisonner. Pour le reste, les questions que la vie leur posera, je n'ai pas de réponse. Oui, dit Raymond Davout, mais ces réponses, elles vous les demanderont. Je demeurais quatte. Une prémonition me disait que Raymond avait raison. Un jour ou l'autre, elles te demanderont ce que tu ne peux pas leur donner et tu les décevras. Et le mariage d'amour aura pris fin. Ce roman, c'est donc Le Glacis de Monique Rivet. Et cette page est une des très belles pages que l'on peut lire sur le rôle du professeur et ses limites également. M'est alors revenue la phrase que répétait le très grand historien du Moyen-Âge qui était Georges Duby et qu'il tenait de son maître à lui, Jean Daigneault. Et surtout, quoi que vous enseigniez, n'oubliez pas l'immense peine des hommes.
On pense beaucoup à tous les professeurs qui se trouvent devant les questions que la vie pose à leurs élèves et qui n'ont probablement aujourd'hui pas les réponses. Un grand merci Emmanuel. Lecture d'actualité, ça se retrouve sur franceculture.fr. À 15h55, à cette heure-ci, nous jouons, nous ouvrons les livres, nous continuons d'ouvrir les livres. Le grand jeu des pages musicales est un jeu très simple. Vous êtes en train de lire n'importe où, n'importe quand. Vous trouvez à l'intérieur d'un paragraphe l'évocation d'un air musical. Vous prenez une photographie, vous pouvez nous l'envoyer via l'Instagram du Book Club de France Culture ou alors à l'adresse lebookclub@radiofrance.com. Aujourd'hui, c'est Fiona qui a trouvé un extrait dans le roman de Par les routes, paru en 2019 aux éditions Gallimard. C'est un roman de Sylvain Prudhomme, à travers le personnage d'un autostoppeur. C'est un récit qui évoque la force de l'amitié et du désir, ainsi que le vertige devant la multitude des existences possibles. Il avait eu le prix Landerneau des lecteurs 2019, ainsi que le prix Fémina. Dès qu'un type chante des textes un peu travaillés en s'accompagnant à la guitare, on l'appelle le Brassens du pays. Boulat Okudjava, le Brassens russe. Pago Ibáñez, le Brassens espagnol. Ou peut-être que nous sommes les seuls à les appeler ainsi, avait-il ri. Peut-être que pour les Espagnols, c'est Brassens qui est le Pago Ibáñez français. Fabrizio De André, ça vous dit quelque chose? Avait demandé l'autostoppeur au chauffeur en lui montrant la cassette encore sous blister. Et comme ça ne disait rien au type, il avait arraché l'emballage, glissé la cassette dans l'autoradio. C'était une cassette de reprise de chansons célèbres, traduites en italien. Le gorille. Mourir pour des idées. Suzanne. Suzanne, ma chanson préférée, avait dit le type. Il avait écouté la version de De André. Sa voix grave, sobre. Les sonorités tout autres de l'italien, plus articulées, plus ouvertes. Étrange au début. Moins sombre que l'anglais d'origine. Splendide aussi à leur façon. Il avait exulté. Et pour faire partager son bonheur aux collègues calés dans le second camion poubelle, il avait allumé sa Sibi et approché son émetteur de l'enceinte suspendue au plafond de la cabine. « Écoute ça, Patrice !» Cela dit dans le grésillement atroce de la Sibi, à son pote installé au volant du camion poubelle jumeau. Deux bandes blanches derrière nous. « Écoute ça comme c'est beau !»
E tu vuoi viaggiarle insieme, vuoi viaggiarle insieme ciecamente, perché sai che le hai toccato il suo corpo perfetto con la mente. E Gesù fu un marinaio.
Au son aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson à la réalisation, Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, Anouk Delfino, Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Oriane Delacroix, Léa Weiss-Grus, Jeanne Aléos et Didier Pinault. Vous pouvez réécouter toutes les émissions du Book Club via franceculture.fr, vous abonner au podcast via l'application Radio France et puis nous envoyer vos questions, vos remarques, vos partages via l'Instagram du Book Club. Très bel après-midi à toutes et à tous sur Culture.